Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé.
Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, malgré tout. Vous êtes écrivain, chroniqueur, intellectuel. Vous avez tenu pendant près de 20 ans une chronique quotidienne au quotidien d'Oran. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur à l'hebdomadaire Le Point. Vous signez des tribunes régulières dans plusieurs journaux internationaux. Vous avez reçu le Goncourt du premier roman en 2015 pour Meursault contre enquête qui avait été publié chez Actes Sud. Et vous êtes le lauréat en 2019 du prix mondial Sino del Duca remis par l'Institut de France. Vous êtes en France, où vous venez tout juste d'arriver, parce que vous êtes l'un des invités des Journées nationales de l'histoire à l'Institut du monde arabe que France Culture coproduit, on en est le partenaire, autour du thème cette année des révoltes et des révolutions. Et dans ce cadre, demain, vous devez faire une conférence. On va revenir sur cette conférence dans quelques minutes. Vous intervenez régulièrement, Kamel Daoud, sur les questions de religion, de laïcité, de liberté. Vous venez d'arriver hier soir, vous arrivez avec cette annonce d'un abominable attentat. Ce matin, quelques journaux titrent « La barbarie frappe l'école », titre « La terreur islamiste aux portes de Paris ». C'est le choc qui domine ce matin, vous le disiez dans le journal.
Écoutez, le choc bien entendu, mais en même temps, cette impression qu'ont beaucoup d'Algériens de ma génération, c'est celle de revivre ce que nous avons vécu dans les années 90, l'assassinat des enseignants, les décapitations, les attaques contre les journalistes, les meurtres de masse, les massacres de masse. Tout cela, nous l'avons vécu. Et je disais à quelqu'un ce matin que je suis quand même assez sceptique et assez pessimiste, parce que ce qui s'est passé en Algérie ne me semble pas servir de leçon au reste du monde, à tous les pays qui sont confrontés à l'islamisme. Maintenant, qu'est-ce que nous avons pu tirer comme leçon? J'ai l'impression que ce sont les islamistes et les djihadistes qui ont tiré leçon de la décennie de la guerre civile en Algérie. Ce sont eux qui ont su maintenant s'adapter, adapter leur stratégie, investir, faire de l'entrisme, s'accaparer les institutions, la culture, le droit à la parole. Mais en face, il n'y a pas de leçon tirée du cas algérien. Il ne s'agit pas d'arrêter des terroristes uniquement, il s'agit de démanteler l'islamisme. Et comme je le disais au début, on le démantèle sans culpabilité, sans fausse culpabilité, avec beaucoup de courage, sans haine envers autrui, mais avec de la fermeté. L'islamisme est une machine, et c'est cette machine-là qu'il faut démanteler.
Comment on le démantèle?
Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut dissocier l'islamisme du communautarisme. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une communauté qu'on est propriétaire exclusif d'une religion. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je suis d'accord avec Macron, il faut revenir sur la question de la mémoire coloniale, parce qu'elle sert de fonds de commerce à ceux-là même qui veulent recruter sur la base de la douleur transmise par la mémoire. Ce sont des rentiers de la mémoire. Il y a une rente du post-colonial, et c'est une rente utilisée autant par certains milieux et certains éditorialistes, certains universitaires, les milieux intellectuels, que par les islamistes qui jouent sur ça. Les islamistes ne parlent pas de colonisation, ils parlent de croisade et de contre-croisade. On est toujours dans cet imaginaire de l'Occident comme agresseur qu'il faut punir. Donc il y a, je me répète, mais il y a une dissociation à faire entre le communautarisme et la confession, parce que pour le moment on en est à une sorte de communautarisme confessionnel. On est ce qu'on est parce qu'on est musulman. Et on oppose cette islamité à la francité. Et il faut la dissocier aussi de la mémoire de la colonisation qu'il faut assumer, dissoudre, en parler, faire revenir à la surface et la dépasser. Je pense aussi qu'il faut pouvoir, en France, chez vous, parler de l'islam sans complexe. L'islam est une religion et la religion n'appartient à personne. Tout le monde en est propriétaire. Personne n'est Dieu. Personne n'est son prophète. Donc j'ai le droit de parler du bouddhisme, du judaïsme, comme de l'islam. Si vous continuez à parler de l'islam comme s'il appartenait à une communauté, c'est que vous validez le statut d'interlocuteur exclusif chez les plus radicaux. Parlez de l'islam, il vous appartient, dissociez-le. Je suis pour le séparatisme, mais lequel? Le séparatisme qui sépare la religion des pays d'origine et des pays souches. L'islam est français maintenant. Il faut l'assumer comme un fait français. Et si on n'arrive pas à le séparer du fantasme du pays sous, c'est qu'on n'a pas résolu le problème.
Et est-ce qu'il faut séparer la religion de ce qu'on en fait quand on a une visée politique, une visée intégriste, c'est-à-dire séparer aussi l'islam de l'islamisme? Est-ce que le problème aussi en France, puisqu'on n'arrive pas à en parler sereinement, ça n'est pas le confusionnisme qui reste, qui domine autour de ces questions?
Il est partout dans le monde, il n'est pas exclusivement un fait français. C'est-à-dire, nous en souffrons en Algérie. Vous savez, la parole est quasiment interdite. Et sinon, il y a une terreur intellectuelle aussi dès que vous prenez parole contre l'islamisme. Vous avez en face de vous les islamistes qui vous l'interdisent par fatwa, par menace, et vous avez les idiots utiles qui vous accusent de cultiver une rente, de faire le jeu de l'Occident, de vivre de ça, d'islamophobie. Donc on a les deux fronts qui vous attaquent. Donc, et ça se passe aussi en France et partout dans le monde. Ce n'est pas uniquement séparer, c'est assumer. L'islamisme est un projet politique. C'est quelqu'un qui vise le pouvoir, point barre. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'interprétation. C'est une entreprise politique. L'islamisme est un candidat au pouvoir. Et un pouvoir sur vous, votre corps, votre sexualité, votre culture, votre histoire. L'islam est un choix intime, est un choix personnel. On n'a pas à en rendre compte vis-à-vis d'autrui, ni à l'exprimer. Le communautarisme, s'il doit s'exprimer, il peut s'exprimer par la cuisine, par l'habit, la culture, le livre, le romancier. Pourquoi exclusivement par la religion? Si vous acceptez cette accaparation du communautaire par le confessionnel, vous acceptez d'avoir comme vis-à-vis, encore une fois, que des extrémistes.
Vous disiez oui au séparatisme, mais pas n'importe lequel, Kamel Daoud. C'est d'ailleurs le titre de votre dernière chronique dans Le Point. Oui au séparatisme, ça fait écho au discours du président de la République sur le séparatisme islamiste il y a 2 semaines. Est-ce que cela vaut une loi?
Écoutez, j'ai titré de manière ironique, c'est-à-dire ce que moi je voudrais, ce dont je rêve, ce que je propose, c'est que l'islam soit accepté comme un fait français et séparé du pays d'origine. Si vous continuez à importer des imams des pays d'origine des communautés qui vivent en France, quel sera le résultat? Si vous continuez à subir le poids des lobbies politiques d'États tiers sur votre religion, l'une de vos religions, quel sera l'avenir? Si vous acceptez encore de parler de l'islam comme d'un fait exogène qui vient d'ailleurs, quel sera l'avenir de la France encore une fois? Moi, je trouve quand même ironique que un pays comme la France n'a pas le droit de parler de christianophobie ou de chrétiens dans l'Orient ou du Moyen-Orient ou dans le monde dit arabe ou maghreb, mais en même temps, un ministre des Affaires religieuses dans le Maghreb a le droit de parler des Français musulmans. De quel droit? Si vous ne coupez pas, si vous ne séparez pas, justement, et c'est là où j'emploie le mot séparatisme, eh ben vous acceptez qu'une partie de votre population soit sous tutorat d'une partie tierce. Et ça se passe maintenant, soit avec l'islam maghrébin, soit avec l'islam consulaire turc, etc. Donc, il faut que vous nationalisiez, entre guillemets, vos religions, quelque part, vos confessions, vos pratiques religieuses, vos croyances.
Ce matin, Kamel Daoud, dans le journal Le Parisien, Yanis Roder, qui est historien, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, qui dirige l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès et qui lui-même enseigne depuis une vingtaine d'années dans un collège de Seine-Saint-Denis, dit « Au niveau du symbole, il n'y a pas pire que de s'attaquer à un professeur ».
Je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui nous touche tous. C'est quand même un lien fondateur de nos vies. Le lien que nous avons eu au début de nos vies avec l'enseignant. L'enseignant, c'est une figure majeure de toute la construction symbolique en France. C'est une forme de sacerdoce. C'est une charge symbolique. Mais en même temps, s'attaquer à un enseignant, l'égorger, le tuer, c'est un crime. Mais au-delà du crime, c'est un refus de filiation, c'est un refus de transmission, c'est un refus d'une vision de la vie. C'est quelque chose qui nous choque. De toute la guerre civile algérienne que j'ai vécue entre mes 20 et 30 ans, c'est-à-dire celle qui m'a volé la plus belle partie de ma vie, je me souviens d'une chose. Les enseignantes égorgées à l'ouest algérien, c'était des enseignantes qui étaient dans un bus, qui se dirigeaient au matin vers un petit hameau pour donner leur cours, qui ont été prises dans ce qu'on appelle en Algérie un faux barrage, c'est-à-dire un barrage de djihadistes, et qui ont été égorgées. Cette image-là m'obsède, elle ne me quitte jamais. Et c'est quelque chose de très lourd. Elle touche en nous quelque chose de plus profond que le simple sentiment de scandale ou d'indignation ou de choc. Ça va au-delà. Il y a quelque chose qui confesse une rupture profonde, un refus mais absolu.
Vous disiez tout à l'heure que ça vous rappelait ces années-là, justement, les années noires en Algérie, la décennie des années 90. Malgré tout, nos deux histoires ne sont pas les mêmes. Malgré tout, nos deux cultures ne sont pas les mêmes en France et en Algérie, même si on partage beaucoup de choses et une grande partie de l'histoire aussi. Qu'est-ce qu'on a raté en France pour que de tels actes soient possibles, sachant que il y a 3 semaines, un homme a attaqué 2 personnes au hachoir dans le cadre du procès des attentats de 2015, pensant attaquer des journalistes de Charlie Hebdo qui avaient donc, et c'est le même cas avec hier soir, republié ces caricatures. Et on va y venir dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a raté en France, hein?
Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais je réagis.
Non, mais vous regardez avec un œil extérieur.
Disons que ce qui a été raté, c'est d'abord de considérer l'expérience algérienne, de voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, à partir de quand a commencé la défaite. Pourquoi, avec une victoire militaire sur l'islamisme en Algérie, on en est à une défaite du point de vue culturel, du point de vue des mœurs, du point de vue de la société. Actuellement, la société algérienne s'islamise, mais... très rapidement, n'en déplaise à ceux qui affichent des selfies, des portraits pour dire que non, il y a une laïcité qui est en marche, etc. Ce n'est pas vrai. La société a basculé. Les islamistes ont été vaincus militairement, mais ils ont été vainqueurs d'un point de vue idéologique. Donc ce que peut-être vous avez raté, c'est de prendre conscience que l'islamisme ne naît pas en un seul jour. C'est un milieu associatif, c'est du bénévolat, c'est une prise en charge des reclus, des exclus de la société. C'est de l'école, c'est une force de frappe éditoriale. C'est faire face encore plus avec Internet. Lorsqu'un livre coûte 20 euros et qu'un livre de propagande sur le paradis et les délices des vierges au paradis ne coûte rien, c'est qu'il y a une défaite culturelle quelque part. Il y a une misère culturelle qui est récupérée de l'autre côté. Il y a une force de frappe financière et de propagande qui est là. Donc il y a aussi ce débat qui a été quand même plus ou moins mis de côté sur qu'est-ce que l'islam de France et comment, qu'est-ce qu'il faut en faire. Refoulé, il revient avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de monstruosité et de terreur comme dans nos rêves. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir. Il y a aussi la fermeté.
Qu'est-ce que ça veut dire la fermeté?
Alors, je suis quelqu'un qui est contre la négociation indirecte avec l'islamisme. L'islamisme doit être combattu. C'est ma conviction. Il doit être combattu, refoulé, repoussé. Il ne doit pas être, on ne doit pas le céder devant l'islamisme au nom de la culpabilité, au nom de la volonté de comprendre les autres, etc. Comprendre les autres, ce n'est pas tolérer les dépassements de loi. Il faut qu'il y ait une affirmation absolue et ferme sur la laïcité. C'est une république, c'est un pays où on veut vivre. C'est un pays vers lequel des gens voyagent au détriment de leur vie pour profiter du luxe, mais aussi de la possibilité de s'émanciper et aussi de la liberté. Alors, on ne peut pas se permettre de perdre cette liberté. Je dis souvent à des personnes que je rencontre que vos compromissions sont nos défaites. Si vous vous cédez, nous sommes foutus.
Vous dites qu'il faut, Kamel Daoud, combattre l'islamisme. Est-ce que cela passe par un travail, paradoxalement, et c'est peut-être ça qui est le plus terrible ce matin, d'éducation, pour éviter, parce qu'il y a l'islamisme, il y a ceux qui passent à l'acte, et puis il y a ceux qui vont basculer, qui n'ont pas encore basculé, et qui sont tentés, et c'est le sujet de votre conférence demain à l'Institut du Monde Arabe. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage plutôt dans la religion et son intégrisme, plutôt qu'ailleurs, dans la société?
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ceux qui les excusent, ceux qui fabriquent leurs excuses. J'ai remarqué en Algérie comme ailleurs que les islamistes sont obsédés par 2 secteurs au début, la justice et l'éducation. Personne n'a été autant combattu en Algérie que l'ex-ministre de l'éducation, par exemple, parce que c'est une femme, parce qu'elle est moderniste et parce qu'elle contrôle l'école. Ce qu'ils veulent, c'est l'école. Ils veulent les générations futures. Donc si on perd sur l'école, on perd tout le reste. Et partout dans le monde, vous voyez le parcours d'Erdogan en Turquie, ils sont obsédés par l'éducation, par l'école. Ils veulent nos enfants. Parce qu'ils savent que nous, ils ne peuvent pas nous convaincre. Ils peuvent nous tuer, nous refouler, mais ils ne peuvent pas nous combattre, nous convertir. Par contre, ils veulent nos enfants. Ils veulent nos enfants à l'âge le plus précoce. Donc l'éducation est importante. Et puis, le discours sur la religion est important. Il faut se réapproprier le droit de parler de l'islam sans culpabilité.
Enseigner le fait religieux, le débat est à nouveau sur la table.
Pas uniquement.
Pas uniquement. Au sens large. Hein,
oui, au sens large. Mais je ne sais pas, je ne connais pas très très bien les structures françaises, mais je pense que la formation d'un clergé musulman est importante, en langue française surtout. On n'a pas idée de ramener un imam d'ailleurs qui maîtrise la langue arabe pour parler à des candidats à la citoyenneté absolue et idéale française dans une langue qui est chargée d'histoire, qui est chargée de mémoire aussi. Donc je pense que la formation d'un clergé musulman en France est importante. Je pense aussi que le retour aux études théologiques est important. J'ai toujours trouvé scandaleux et catastrophique la mort de l'orientalisme. On l'a tellement décrié. On a toujours pensé que l'orientalisme était une sorte de collection de clichés savants. Mais la réalité, c'est qu'il y a 50 ans, on avait des imminences qui parlaient d'islam. Maintenant, on a des imams de banlieue qui parlent d'islam. Donc le retour aux chaires religieuses et théologiques est important. La traduction est aussi importante. Il ne suffit pas de dire que nous avons un discours moderne. Il faut aussi le traduire, le diffuser et se faire traduire les ouvrages des autres. Donc je pense que traduction, formation, droit de parole sur l'islam et résoudre la question de la mémoire coloniale sont des faits importants et des pas importants.